Bonjour, bonjour Yves, au micro pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne dérogera pas à la tradition et qui par conséquent vous rappellera ou vous apprendra que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent, oui là, sur votre portable, mais si vous pouviez baisser le son, ce serait pas plus mal. Ce jour dans 24 notes secondes, eh bien j'avoue que j'en suis tombé de ma chaise, mais nous n'avions jamais encore consacré une émission à une des stars des années 50-60, si vraiment une personne peut mériter le nom de star dans ces années-là, eh bien c'est Elizabeth Taylor, actrice née à Londres le 27 février 1932, dont le père était marchand d'objets d'art et la mère actrice, mais tous les deux américains. Sa maman, qui a toujours exercé une influence assez notable sur la carrière d'Elizabeth, eh bien, lui fait faire de la danse et quand elle a 7 ans, c'est-à-dire en 1939, eh bien, sa famille déménage aux États-Unis, en Californie, plus près d'Hollywood, c'est mieux, où Madame Taylor n'a de cesse de présenter sa fille aux pontes du cinéma. Il faut dire que la galerie d'art de son mari est une bonne occasion de rencontrer non seulement des vedettes, mais aussi, et c'est le plus important, des producteurs, des réalisateurs, c'est-à-dire les gens qui permettent d'engager les acteurs et les actrices, surtout quand elles ne sont pas connues. Son premier film, elle le tourne en 1942, ça s'appelle « There's one born every minute », il y a un qui naît toutes les minutes, à mon avis, je ne sais pas de quelle est la temporalité, mais ma foi, et ce n'est pas un gros succès. On la voit aussi dans « La fidèle Lassie » en 1943, et donc quelques films, mais elle s'impose dans le Grand National en 1944 aux côtés de Mickey Rooney, qui est un enfant star, mais il avait quand même 24 ans à l'époque, et elle commence à être connue. Et on va écouter un extrait de la bande originale d'un film tourné en 1949, où Elizabeth Taylor est aux côtés d'une autre actrice promise à une belle carrière, à savoir Janet Leigh, dans une adaptation d'un grand classique qui a été plusieurs fois tourné au cinéma et qui l'a été depuis 1949, « Les quatre filles du Dr March », adapté d'un roman de Louisa May Alcott et qui raconte, le croirez-vous, eh bien le destin de quatre filles dont le papa est docteur. Allez, on écoute un extrait de la bande originale de ce film. La musique, elle est signée de Adolf Deutsch dans 24 notes secondes. Voilà, vous avez écouté un petit extrait de dialogue, mais ce n'était pas la voix d'Elizabeth Taylor, je pense que c'était celle de June Allison qui interprète dans Les Quatre Filles du Docteur Marsh le rôle de Jo Marsh. Elizabeth Taylor, elle incarne la petite peste, ma foi c'est peut-être pas plus mal venu, Amy, il faut dire qu'elle n'a que 16 ans à l'époque, 1932. 1949, et ça n'empêche pas d'être précoce, puisque à 17 ans, eh bien, elle épouse son premier d'une longue série mari, mais oui, à l'âge de 17 ans, elle épouse son premier mari, Conrad Nicky Hilton Jr., qui se trouve être l'héritier de la chaîne d'hôtels Hilton, donc sans doute quelqu'un qui est pas forcément gêné à la fin du mois, mais le mariage est un échec et s'achève au bout de 9 mois. C'est le premier d'une longue série. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Cette chère Elizabeth Taylor, qui est surtout connue pour ses yeux. Alors après, il y a des controverses. Certains prétendent qu'ils sont bleus, très sombres. D'autres qu'ils sont lilas. Et la majorité, quand même, s'accorde à dire qu'ils sont violets. En tout cas, elle a un regard tout à fait particulier et accentué par le fait, je vous apprends des choses, que la dite Elizabeth Taylor avait une dystichiasis, une anomalie génétique qui faisait qu'elle avait 2 rangées de cils. Donc quand elle vous regardait, ça fait le double effet, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, 1949, Les Quatre Filles du Docteur Marsh, un joli petit succès, et du coup, eh bien, l'occasion pour Elizabeth Taylor de commencer à se faire une petite place dans ce monde si impitoyable d'Hollywood. Dans les années 50, on la voit dans Le Père de la Mariée de Vincente Minnelli, c'est elle, la mariée, et dans sa suite, Allons donc Papa, tournée en 1951. On le voit surtout, toujours en cette même année, 1951, dans le fameux Une place au soleil de George Stevens, d'après le roman de Theodore Dreiser, avec à ses côtés Montgomery Clift, dont elle sera l'amie fidèle, et là je ne plaisante plus, l'ami fidèle Montgomery Clift, on lui a déjà consacré une émission, un homme bien tourmenté et qui a eu une vie bien douloureuse, et bien Elizabeth Taylor aura été jusqu'au bout et bien son ami, son soutien, sa confidente, que sais-je encore. Ensuite, et bien pas mal d'autres rôles, et puis on va écouter un nouvel extrait musical, alors cette fois d'un film très très hollywoodien dont elle n'est pas la vedette, puisque les vedettes c'est Robert Taylor et Jane Fontaine, mais dans Ivanhoé de Richard Thorpe, tourné en 1952, eh bien, Elizabeth Taylor éclipse John Fontaine, et elle éclipse peut-être aussi Robert Taylor. C'est pas trop difficile, parce que même s'ils ont une homonymie, le gars avait quand même un charisme mâle, certes, un jeu d'acteur, disons, un peu plus tourmenté, et à leur côté, il y a aussi George Sanders, alors lui, un acteur de base qui fait le méchant. C'est évidemment une adaptation Chevalier de Table Ronde d'un roman de Sir Walter Scott, et évidemment aussi, en tout cas à l'époque, eh bien, la musique ne pouvait en être signée que du grand Miklos Rossa, spécialiste des grosses productions MGM de l'époque. Et il faut dire que le film durait quand même 200 minutes, je vous laisse calculer, plus de 3 heures, ça m'étonne un peu quand même. Je vérifierai, on écoute en attendant Ivanhoé, Miklos Rossa, 24 notes secondes. Thank you. Un extrait signé Miklos Rossard, mais les amateurs de 24 secondes auront reconnu son style de la bande originale d'Ivanhoé, Richard Thorpe, en 1952. 106 minutes, pas 196 minutes. Pour une fois, je prends ma petite fiche en défaut, mais un film hollywoodien qui durait plus de 3 heures avec des caps et des épées, ça paraissait assez peu vraisemblable. 106 minutes, c'est déjà raisonnable. Robert Taylor, Jane Fontaine sont des rôles principaux, mais ils sont aisément éclipsé par Elizabeth Taylor, qui rencontre quelque part sur le tournage Michael Wilding, qui deviendra son mari, vous l'avez sans doute deviné, et duquel elle aura deux enfants. Ensuite, eh bien, son statut de star étant assuré, eh bien, on la voit dans des films de plus en plus importants. On la voit dans Géant de George Stevens en 1956. Aux côtés de James Dean, ai-je besoin de le préciser ? Ah oui, j'ai besoin de le préciser. Bon, bah, c'est pas grave. On la voit, en 1957 dans L'Arbre de vie d'Edouard Mitrick, qui est une sorte de Autant en emporte le vent des années 60. Mais personne ne peut imiter Autant en emporte le vent. Et puis après, on la voit dans des vrais rôles où elle montre l'étendue de son talent et pas seulement de sa plastique, et notamment deux adaptations de Tennessee Williams tournées coup sur coup. La chatte sur un toit brûlant, Richard Brooks 1958, avec Paul Newman, et surtout, Soudain l'été dernier, de Joseph Mankiewicz, 1959, où elle retrouve d'ailleurs son cher Montgomery Clift, et personne, en tout cas ceux qui l'ont vu, pas à l'époque, même moi, et en tout cas ceux qui l'ont vu après, personne n'aura oublié Elizabeth Taylor en maillot de bain, en train de se baisser. Je vous laisse découvrir ça sur une image, ou plutôt en voyant le film, qui a sans doute un peu mal vieilli par son côté psychanalytique et un peu caricatural, mais qui, rien que pour Elizabeth Taylor, mérite la peine d'être vue. Entre-temps, puisque Elizabeth Taylor, c'est aussi bien une carrière qu'une vie, eh bien, elle aura divorcé de Michael Wilding et elle aura épousé Mike Todd, dont le nom ne rappellera sans doute pas grand-chose, mais qui fut dans les années 60 une sorte de mogul, un producteur de génie qui avait inventé un procédé, le Todd AO, qui est une sorte de procédé encore plus grand que le cinémascope, c'est dire, et avec lequel il tourna un tour du monde en 80 jours, adapté bien sûr de Jules Verne, avec David Niven dans le rôle principal, qui fut un énorme succès. Mais, Mike Todd mourra accidentellement et apparemment, d'après les biographes, et oui, j'ai lu des biographies d'Elizabeth Taylor, et alors, eh bien, c'était l'amour de sa vie, et elle l'aura perdu dans les années 50. À mon avis, quand même, l'amour de sa vie, elle va le rencontrer dans très 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 peu de temps, puisque après les films déjà cités, eh bien, Elizabeth Taylor, en 1963, va s'engager pour être le rôle-titre, comme l'on dit, de Cléopâtre, un film de Joseph Mankiewicz, à nouveau, comme soudain l'été dernier, dans lequel elle va retrouver un certain Richard Burton. Comme l'on dit, the rest is history. Je vous en dis un mot, mais on va écouter un extrait de la bande originale de Cléopâtre. Elle est signée d'Alex North dans 24 notes secondes. Un très court extrait d'une partition monument pour un film qui n'est pas moins, Le Cléopâtre de Joseph Mankiewicz, 1963, une musique d'Alec North. Alors, j'ai oublié de vous préciser qu'avant de tourner dans ce film, eh bien, Elizabeth Taylor avait reçu pour une première fois l'Oscar de la meilleure actrice. C'était un film pour un film intitulé Vénus, La Vénus au vison, pardonnez-moi, de Daniel Mann. Et elle avait aussi, accessoirement, elle s'était remariée avec Eddie Fisher. Mais là encore, évidemment, les couples, etc., etc., puisque sur le tournage de, Cléopâtre, en 1963, donc, eh bien, Elizabeth Taylor va rencontrer Richard Burton. Alors, nous avons consacré une émission à Cléopâtre, car le tournage du film fut absolument dantesque. Dans un premier temps, le réalisateur était Ruben Mamoulian, les acteurs principaux Stephen Boyle, Marc-Antoine et Peter Finch, Jules César. À la fin, le réalisateur, c'est Mankiewicz, et les acteurs, eh bien, c'est Rex Harrison dans le rôle de César et Richard Burton dans celui de Marc-Antoine. Le tournage est apocalyptique. Il faut dire que Miss Taylor y met du sien, puisqu'elle a une trachéotomie qui l'empêche pendant 6 mois de tourner, ce qui retarde tout et ce qui, du coup, conduit le film à coûter peut-être 5-6 fois plus qu'il ne méritait, en tout cas qu'il ne devait coûter au départ. Il faut dire aussi que Miss Taylor, elle, par contre, s'en tient à son contrat, qui était absolument mirifique. Il est vrai qu'elle venait d'obtenir un Oscar, était extrêmement connu. Bref, pour la MGM, qui était la maison de production, eh bien, ce sera une catastrophe commerciale, même si le film rencontrera un grand succès. Mais surtout, eh bien, c'est le début de l'idylle entre Richard Burton, qui est encore marié à l'époque, et Elizabeth Taylor. Et ensuite, comme quoi l'idylle, eh bien, elle durait. Dans les années qui suivirent, eh bien, ces deux-là se retrouvèrent 7 fois à l'écran ensemble, excusez du peu. Il faut dire qu'il y avait tout le côté glamour d'un couple qui se déchirait, puisqu'ils se sont plusieurs fois séparés, remis, etc., etc. Et ma foi, aussi étonnant que cela paraisse, eh bien, parmi ces films, il y en a quelques-uns qui sont plutôt bienvenus. Le Chevalier des Sables de Vincente Minnelli, tourné en 1965 avec The Shadow of Her Smile, une chanson iconique, Reflet dans un œil d'or de John Huston, tourné en 1967, et même 2 films de Lozay, Boom avec un point d'exclamation, et Cérémonie secrète, tournée en 1968, et puis surtout en 1966, eh bien, Miss Taylor n'aura pas peur de se vieillir et de perdre 25 kilos pour être l'interprète principale de Qui a peur de Virginia Woolf, c'est-à-dire la version cinématographique de Qui a peur de Virginia Woolf, une pièce absolument, comment dire, machiavélique d'Edouard Albee, qui raconte l'histoire d'un couple qui se déchire. Richard Burton, Elizabeth Taylor, vous l'avez deviné, devant un autre couple, beaucoup plus jeune, qui n'en peut mais, avec des histoires qu'on ne comprend pas toujours, mais pour des acteurs et des actrices, si vous me passez l'expression, eh bien c'est du non-non. Et Elizabeth Taylor l'avait bien deviné, et elle l'avait d'autant plus deviné qu'elle obtint pour l'occasion, eh bien, son 2e Oscar. La musique de ce film, elle était à nouveau signée du grand Alex North. On en écoute un extrait. J'ai oublié quand même de vous préciser que le film, il était réalisé par Mike Nichols, Qui a peur de Virginia Woolf, 24 notes secondes. Un bel extrait pour mesurer l'étendue du talent immense d'Alex North, un des plus grands compositeurs hollywoodiens des années 60, pour cet extrait de Qui a peur de Virginia Woolf, un film de Mike Nichols d'après la pièce d'Edward Abbey. Richard Burton et Elizabeth Taylor étaient dans les rôles principaux. Il y avait George Segal et Sandy Denis dans le rôle de l'autre couple, et puis c'est tout. Quatre personnes, mais plutôt deux personnes et deux spectateurs pour un film tout à fait saisissant et un deuxième Oscar pour Miss Taylor qui, à vrai dire, avait connu, elle ne savait pas encore évidemment, mais avait déjà connu ses belles années. Donc, je l'ai dit, elle tourna encore avec Richard Burton jusqu'en 1968 et puis, après, ma foi, il n'y a pas grand-chose, hélas, à retenir du reste de sa carrière. Il y a même quelques films qu'on pourra bien oublier. Dans la Famille Pierre à Feu, SIC, tourné en 1994, John Goodman la traite de vieux fossile, ce qui n'est quand même pas le personnage, bien sûr, ce qui n'est certainement pas bienvenu, mais qui, hélas, traduit aussi le fait que la fin de carrière entre séries télévisées et téléfilms plus ou moins improbables n'est pas, je dirais, à l'aune de ce que nous venons d'évoquer. Miss Taylor nous quitte le 23 mars 2011 à l'âge de 79 ans. Elle avait déjà 20 ans auparavant quitté son 8e et dernier mari, Larry Fortensky, si vous voulez le savoir, et la cérémonie de son enterrement commence avec 15 minutes de retard, puisqu'elle avait toujours 15 minutes de retard à ses rendez-vous. Ce que c'est quand même quand on est une star. Allez, on va se quitter en écoutant un extrait de la bande originale de La Mégère apprivoisée, Les bonnes années d'Elizabeth Taylor et de Richard Burton à ses côtés, Katharina Petruccio, William Shakespeare au scénario, mais peut-être que vous le saviez, Nino Rota à la musique, Franco Zeffirelli à la réalisation. Ma foi, c'était très beau, c'est du nandan, comme l'on dit. So long, Elisabeth, dans 24 notes secondes. Voilà, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt. Ciao, ciao, bella. Arrivederci.